Alors à nouveau, on va s'arrêter sur trois choses. Et on va commencer par la ville, Naïm. On va regarder, Jésus part en direction de Jérusalem. Parce que Naïm, si vous voyez, c'est au sud du mont Tabor. Donc vous aviez Capharnaüm, vous redescendez toute la mer de Galilée, vous avez le mont Tabor, et au sud, il y a Naïm. Après, on va regarder au verset 12 la question du Fils unique. Parce que dans un premier temps, on pourrait penser, comme on a entendu le récit, que le Fils unique, c'est une préfiguration de la résurrection du Christ. Jésus lui-même est le Fils unique et lui aussi, il va revenir à la vie. Sauf que le parallèle de ce texte, qui est un texte propre à Luc, est plutôt à chercher dans l'Ancien Testament, au premier livre des Rois, chapitre 17, versets 17 à 24. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit? Eh bien, c'est le prophète Élie qui va prier le Seigneur de rendre la vie au fils de la veuve de Sarepta. Et qu'est-ce qui nous fait penser que le parallèle est à chercher ici? C'est Jésus lui-même. Parce que si vous vous rappelez bien, lorsque Jésus est dans la synagogue de Nazareth, il parle de la veuve de Sarepta. Et là, il accomplit la même chose que ce que le prophète Élie a fait pour la veuve de Sarepta. Justement, on va parler, verset 12, de qu'est-ce qu'une veuve? En tout cas, qu'est-ce qu'une veuve au temps de Jésus et dans la Judée du premier siècle? Donc, bien sûr, une femme devient veuve lorsque son mari est décédé, mais pas seulement. Elle est considérée comme veuve si elle n'a pas non plus ni fils ni gendre pour l'entretenir. C'est-à-dire qu'elle a personne, elle n'a pas d'homme auquel elle puisse être attachée. Ni mari, ni fils, ni gendre. Et en l'occurrence, on voit bien que bah là, elle enterre son fils unique. Si elle avait un beau-frère, si elle n'avait pas eu d'enfant, et qu'elle avait un beau-frère célibataire, elle pourrait l'épouser. C'est la loi du Lévira. Mais en l'occurrence, elle a un enfant. Alors le terme veuve désigne aussi, en gros, une situation juridique qui est très précise, on l'a vu. C'est-à-dire que ni mari, ni fils, ni gendre, et en l'occurrence, là la question se pose pas, mais pas de beau-frère. Mais ça va aussi définir un nouveau mode de vie, parce que c'est une vie tout à fait précaire en raison d'un isolement social. Elle va devoir vivre par elle-même. Or, en tant que femme, elle n'a pas de statut social qui le lui permet. Donc, elle pourrait retourner, cette veuve, vers sa famille d'origine. Mais, en réalité, la famille de son père n'a aucune obligation juridique de l'entretenir. Sauf si son père est un prêtre. Dans ce cas-là, il est obligé d'entretenir sa fille. Mais sinon, elle peut rester seule, éloignée de sa famille. Parce qu'on considère qu'à partir du moment où elle a pris un mari, elle a quitté le lien du père. Alors, il y a une autre possibilité qui est d'aller se réfugier au temple, avec les veuves du temple. Et donc, c'est pour ça qu'il est souvent précisé dans le Deutéronome, dans le Lévitique, enfin bref, dans les livres de la loi, qu'il faut protéger et défendre la veuve. Nous, on dit même la veuve et l'orphelin. Mais en tout cas, dans ce texte-là, il est question de protéger la veuve. Et c'est pour ça que souvent les prophètes, et on l'a avec le prophète Élie, vont eux-mêmes rappeler qu'il faut protéger les veuves, et ils vont eux-mêmes en prendre soin. Donc c'est pas quand on croise une veuve dans les évangiles, c'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est pas juste qu'elle a perdu son mari, elle est vraiment seule, elle a plus personne. C'est aussi pour ça d'ailleurs que dans les premières communautés chrétiennes, il y aura des communautés de veuves consacrées. Alors, proposition de lecture maintenant. Si on observe bien, quand on lit, il est question d'une rencontre entre deux foules. On a deux foules qui vont se croiser. La foule qui accompagne la veuve, qui était pleurée, qui est en train d'enterrer son fils unique. Et il y a une autre foule qui est celle qui accompagne Jésus, qui vient de guérir un esclave. Un esclave qui, lui, était sur le point de mourir. Donc, en somme, on pourrait dire que la mort et la vie se croisent mais ne font pas que se croiser. Elles vont même se rencontrer. Et contrairement à l'épisode précédent du centurion, ici, il n'est pas du tout question de la foi de la veuve, mais de Jésus. Ce qui est mis en avant, c'est Jésus. Jésus qui est pris de compassion. Comme si la situation précaire de la veuve le poussait à accomplir, à donner en exemple l'enseignement qu'il a lui-même donné et qu'on a entendu juste avant, au verset 36 du chapitre 6. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Qu'importe finalement que cette femme est veuve et qu'elle n'ait plus de repère masculin en ce monde, elle a un Père au ciel. Et c'est un Père miséricordieux. Donc c'est lui qui va venir à son secours. La miséricorde du Père va donc s'étendre à cette veuve, mais pas seulement. Elle va s'étendre à son Fils unique. Et c'est Jésus qui va réveiller ce jeune homme de la mort pour le faire vivre à nouveau. Donc finalement, la question est réglée. Elle n'est plus veuve. Son Fils unique est là. Et on l'a là, en l'occurrence, même si, évidemment, le parallèle, on a dit, est à chercher plutôt du côté du premier livre des rois et du prophète Élie, on a quand même déjà en tête que lorsque Jésus est confronté à la mort, c'est la vie qui triomphe. Et au verset 16, donc tout à la fin, on voit « La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu en disant. » Eh bien, on voit bien que les deux foules sont désormais réunies, il n'y a plus qu'une seule foule. Et elles peuvent bien rendre gloire à Dieu, parce qu'à ce moment-là, dans leur vie, effectivement, Dieu a visité son peuple. Et donc Jésus se révèle pleinement l'Emmanuel, puisque Emmanuel, vous vous rappelez, ça veut dire Dieu est avec nous. Et bien, Dieu était là. Donc Jésus marche non seulement sur les pas du grand prophète Élie, mais il s'affirme comme fils de Dieu. Et si il marche sur les pas d'Élie, c'est pas parce qu'il est Élie lui-même, mais c'est parce qu'il est le Messie qui vient accomplir les Écritures. Et c'est là qu'il y a plus que le prophète, il y a le fils de Dieu.